J'ai donc accepté la charge très belle et difficile de vous aider à trouver des raisons d'espérer malgré toutes les difficultés, toutes les tentations de découragement que vous pouvez éprouver, que vous éprouvez, soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, familiale, ou bien lorsque vous regardez l'Église ou le monde. Difficultés sur le plan personnel, je pense aux personnes qui viennent ici avec un sérieux ennui de santé, soit qu'elles viennent de le découvrir, soit qu'elles l'ont depuis longtemps, à toutes les personnes qui souffrent terriblement d'un incident qui vient de leur arriver suite à une gaffe, une perte de carte bleue par exemple, qu'on a égarée bêtement, et on ne sait pas bien où elle est, et on a oublié de prévenir la banque tout de suite, etc. Il y a un tas de contretemps comme ça dans la vie qui risquent de nous empêcher de profiter d'une session. Ou bien les personnes qui voient beaucoup de couples avec beaucoup d'enfants et qui voudraient bien avoir des enfants tout en étant mariés. Ou bien je pense à tous les célibataires ou les célibataires qui sont ici et que je salue très spécialement. Difficultés sur le plan familial. Vous avez peut-être un enfant qui a du mal à sortir de son adolescence, ou bien qui vient d'avoir un ennui de santé. Un grand adolescent qui a tout largué alors qu'il était allé au JMJ et qu'il était grand clerc dans votre paroisse. Un adolescent plus âgé qui n'en finit pas de vouloir se marier tout en vivant avec une copine. Peut-être que vous-même, vous êtes en difficulté dans votre couple et que vous êtes énervé quand vous voyez des couples qui témoignent de leur réconciliation parce que vous vous dites « nous n'y arrivons pas ». Difficultés sur le plan professionnel, comme elles sont nombreuses aujourd'hui, ceux qui sont en chômage ou qui ont peur de s'y trouver parce que leur entreprise a décidé de déménager. Ou bien vous avez un boulot qui ne vous intéresse pas tellement, ou des collègues de travail qui sont vraiment pénibles à longueur d'année. Difficulté quand vous regardez l'Église. J'étais il y a quelque temps en Suisse pour une conférence et on m'apprenait qu'à Fribourg, cette extraordinaire université qui a formé tant de prêtres et d'évêques, cette année, il y avait 0 séminariste en première année de théologie et quelques laïcs. Et puis votre curé qui a 47 clochers à gérer, c'est quand même pas l'idéal, même s'il le fait de son mieux. Et puis on est souvent découragé en voyant que les mœurs se dégradent. Je pense à tous ceux qui ont la simplicité de dire en confession qu'ils se sont abîmés les yeux parce qu'ils n'ont pas zappé assez vite sur un site plus ou moins porno qu'ils ont rencontré sur Internet. Comment ne pas se décourager ? Alors, il y a des solutions sur lesquelles je ne m'attarderai pas parce que ce ne sont pas les nôtres. Tous ceux qui adoptent plus ou moins la spiritualité du Nouvel Âge, qui reprend la philosophie du Sud-Est asiatique, il faut faire la girafe. Parce qu'on se persuade, et je ne me moque pas du Dalai Lama, je ne me moque pas des millions de gens qui sont arrivés à une certaine non-violence par cette spiritualité, tu te persuades que tout est bien, puisque tout est divin. Donc, tu fais comme à Carrefour, tu positives toujours. Ne dis pas, et en ce moment, il y a des gens qui suivent un enseignement comme cela dans plusieurs endroits de France. Ta femme t'a quitté, n'en fais pas un drame. Tu dis, ma femme a des besoins que je n'arrive plus à satisfaire, voilà. Ta femme est morte, t'en prends une autre. On disait déjà cela en Occident du temps du stoïcisme. Bon, ce n'est pas notre solution. Nous pensons qu'il y a des choses horribles. Dieu est en colère contre le mal. J'espère que vous ne faites pas dans votre paroisse des prières universelles du genre « Aide-nous, Seigneur, à toujours voir le côté positif des choses. » Non, le Seigneur, il est en colère contre le mal. Même si tous les éducateurs dignes de ce nom essaye toujours de voir le côté positif qu'il y a chez le loupard. C'était la grande idée de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Il y a toujours 5% de bons dans un loubard de Londres. L'autre solution, c'est l'esprit sectaire. On se regroupe entre gens bien, parce que le monde est pourri, on ne s'en occupe pas. J'espère que ceux qui arrivent pour la première fois à Paray-le-Monial n'ont pas l'impression que telle est l'idée de l'Emmanuel qui organise ce rassemblement. Car si on aime se retrouver entre chrétiens convaincus, chanter la gloire de Dieu et prier ensemble, c'est pour mieux évangéliser le monde. Toutes les communautés nouvelles ont à cœur de se préoccuper du monde, de sa misère, et spécialement de sa misère spirituelle. Alors, il y a trois solutions chrétiennes. Il y en a une qui ne l'est pas tellement. Il y en a une qui l'est un peu plus. Et puis il y en a une qui l'est totalement. Vous vous doutez que c'est sur la troisième que je m'attarderai. Vous avez la solution des optimistes, dont la devise pourrait être celle de Guillaume d'Orange, « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Ce sont des gens qui voient toujours la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide. Et certainement qu'il y a dans cette assemblée des gens qui ont la chance d'avoir ce tempérament optimiste, combattant. Ce n'est pas parce que j'ai perdu une bataille que j'ai perdu la guerre. Ne dites pas que ce problème est difficile, disait Foch. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème. L'homme est grand quand il se mesure avec l'obstacle, Saint-Exupéry. Et comme me disait le prêtre merveilleux qui m'a formé dans ma jeunesse, « Messieurs, soyez des hommes, comme Jeanne d'Arc. » Un prêtre charismatique avant l'heure, vous savez, qui a fondé les colonies de vacances dans mon diocèse de Cambrai sans savoir shooter dans un ballon. Bon. Vous avez une solution un peu plus chrétienne. Elle est adoptée par beaucoup de responsables, même de communautés chrétiennes. Et elle n'est pas mauvaise, elle a sa part de vérité, mais elle ne permet pas de sortir vraiment du découragement parce qu'elle s'appuie uniquement sur des considérations d'ordre historique ou sociologique. C'est vrai que l'Église a connu beaucoup de crises depuis 20 siècles et on en est sorti. J'en énumère quelques-unes. Elles ont duré très longtemps. La crise gnostique, vous avez tous entendu parler récemment de ce fameux évangile de Judas qui appartient à cette littérature gnostique. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens n'ont pas osé croire que Jésus ait pu aller aux toilettes. Dieu qui fait pipi, ça va quand même pas ça, hein? Donc il a fait semblant d'avoir un corps pour nous parler, mais ce n'était pas le vrai Jésus. Donc, dans l'évangile de Judas, Jésus demande à Judas de le tuer pour qu'il soit décorporé et qu'il retrouve sa vraie nature d'être spirituel, sans corps. Bon. Les premiers Gaulois, convertis au christianisme dans la vallée du Rhône, avaient tendance à penser comme ça. Et saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, a dû beaucoup lutter contre eux. La crise cathare, qui a duré 5 siècles en Europe et qui reprend un peu la pensée des gnostiques, méprisant le corps. Elle n'a pas duré longtemps en France parce que Saint-Louis a obligé le comte de Toulouse à faire amende honorable à Notre-Dame de Paris. La Révolution française. Pensez, l'archevêque de Paris, Mgr Gobel, s'était déprêtrisé. Il avait jeté sa soutane aux orties. C'était lamentable du temps du curé d'Ars. Les gens ne savaient plus quoi penser. Et puis, il y a eu cette flambée extraordinaire de christianisme au XIXe siècle, toutes ces congrégations qui se sont fondées et qui ont évangélisé le monde. Jusqu'en 1945, tenez-vous bien, la moitié des missionnaires du monde étaient français. La moitié. Plus de la moitié. Et plus de la moitié des religieuses apostoliques missionnaires du monde étaient françaises. Et maintenant, c'est la crise. Alors on se dit, oh, ça va repartir. Et je crois que ça repartira. On y reviendra. Et puis des considérations d'ordre sociologique. On s'aperçoit que s'il y a moins de monde dans les églises, il y a quand même des phénomènes nouveaux, comme ce rassemblement. Vous savez, des hommes et des femmes qui suivent la même retraite, ça date de 50 ans. C'est à Châteaudun de Galorque que ça a démarré. Mettre des